Eh bien, bonjour à tous. Mes meilleurs voeux à ceux qui je ne les ai pas souhaités. Une bonne année dans la grâce de notre grand Dieu. Et en ce début de mois de janvier, je vous propose, alors je ne sais pas si vous vous rappelez, dimanche dernier, je vous ai demandé de lire Romains 6. Ne sais pas si vous l'avez fait. Romains 6, pas 5. T'as fait les deux? Ah ben écoute, t'as fait les deux chapitres, ils se collent de toute façon et c'est très bien. Voilà, et donc Romains 6 nous parle du péché dans notre vie de chrétien. Et pourquoi ce thème en début d'année? Parce que je me suis dit que si nous voulons avancer ensemble cette année dans la vision de l'Église qui est la nôtre, hein, cette vision qui se met en place, et si vous voulez la connaître, allez déranger Yota, Loïc, Mathias et compagnie. Pas Yota, faut pas déranger. Ah oui, c'est fini, Yota, c'est vrai. Pardon, excuse-moi, Yota. On a besoin de régler ce problème du péché en nous, vous savez, ce truc qui nous colle à la peau là, tellement fortement. Parce que pour cette vision, eh bien, si nous voulons avancer ensemble, il faut que ça soit réglé. Et je crois que c'est important de revenir à nos fondamentaux, en fait. Et je profite de ce début d'année pour qu'on puisse vraiment regarder comment on peut régler ce problème du péché afin qu'on ne parte pas à la dérive, comme on l'a vu dans le chapitre 2 des Hébreux. Donc, ce fondamental, c'est de ne pas tomber dans le piège du péché. C'est tellement facile. Hein, comme je disais, cette puissance, c'est une puissance, le péché. Donc, ça décrit bien et ça nous colle à la peau et c'est tellement facile de tomber parce que ça se fixe dans notre système de pensée et c'est redondant, hein, dans nos vies, il faut être honnête. Et puis après, ben, quand on est tombé dans le péché, ben, après, on n'est pas bien. Vous êtes convaincu de ça? Qui a déjà péché ici? Bon, ceux qui ont levé la main, vous êtes lucides. Ceux qui n'ont pas levé la main, vous venez de le faire. Allez, on va lire le chapitre 6 de Romains. Tu peux mettre la première. Ah oui, c'est vrai qu'elle a. Alors, je lis là. Que faut-il en conclure? Alors, je l'ai pris dans une version un peu plus accessible, hein. Continuerons-nous à vivre dans le péché pour que la grâce de Dieu ne soit plus abondante? Certainement pas. Nous sommes morts au péché. Comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été plongés en Jésus-Christ par le baptême, nous avons été plongés dans sa mort? Par le baptême, donc, nous avons été mis au tombeau avec lui pour être associés à sa mort, afin que tout comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous vivions d'une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous serons également unis à lui par une résurrection semblable à la sienne. Sachant bien ceci, l'être humain que nous étions auparavant a été mis à mort avec le Christ sur la croix, afin que notre solidarité avec le péché soit brisée et que nous ne soyons plus les esclaves du péché. Amen. Car celui qui est mort avec le Christ devient juste et s'éloigne du péché. Si nous sommes morts avec le Christ, nous avons confiance que nous vivrons aussi avec lui. Nous savons en effet que le Christ, depuis qu'il a été ressuscité d'entre les morts, ne doit plus mourir. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. En mourant, il est mort par rapport au péché une fois pour toutes. Mais maintenant qu'il est vivant, il vit pour Dieu. De même, vous aussi, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Ça, c'est essentiel. Le péché, verset 12, ne doit donc plus régner sur votre corps mortel pour vous faire obéir aux désirs de ce corps. Ne mettez plus vos bras et vos jambes au service du péché comme instrument du mal. Au contraire, offrez-vous à Dieu comme des êtres revenus de la mort à la vie et mettez-vous tout entier à son service comme instrument pour établir ce qui est juste. En effet, le péché n'exercera plus de pouvoir sur vous puisque vous n'êtes pas soumis à la loi, mais à la grâce de Dieu. Mais quoi ? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas soumis à la loi, mais à la grâce de Dieu ? Certainement pas. Vous le savez bien, si vous vous mettez au service de quelqu'un pour lui obéir, vous devenez les esclaves du maître auquel vous obéissez. Il s'agit soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance à Dieu qui conduit à une vie conforme à ce que Dieu veut. Mais remercions Dieu. Vous qui étiez auparavant esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout votre cœur au modèle présenté par l'enseignement que vous avez reçu. Vous avez été libérés du péché et vous êtes au service de la justice. J'emploie cette façon humaine de parler à cause de votre faiblesse humaine. Auparavant, vous vous étiez mis tout entier comme esclaves au service de l'impureté et du mal qui produisent la révolte contre Dieu. De même, maintenant, mettez-vous tout entier comme esclaves au service de la justice pour vivre pour Dieu. Quand vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Voyez le fruit des actes que vous avez alors commis et dont vous avez honte maintenant. Ces actes mènent à la mort. Mais maintenant, vous avez été libérés du péché et vous êtes au service de Dieu. Le fruit que vous récoltez est une vie pleinement pour lui qui mène à la vie éternelle. Car le salaire que paie le péché, c'est la mort. Mais le don que Dieu accorde gratuitement, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors j'ai conscience qu'on a déjà vu ce texte l'année dernière. On a fait l'épître aux Romains. Je crois même que c'est Loïc. C'est toi Loïc, je crois, qui n'est pas apporté. Ce n'est pas toi. Bon, autant pour moi. Et je crois que c'est bien de le lire, de le relire. Mais moi, ce que je comprends de ce chapitre, si je fais une lecture un peu rapide, c'est un peu comme si Dieu il me disait, tu vois, je peux faire quelque chose pour toi dans ta vie de chrétien, tu pêches, mais je peux faire quelque chose pour toi parce que j'ai tout accompli, en fait. De la même manière que je t'ai sauvé pour ton salut éternel, de la même manière, je peux te sauver de ton péché quotidien. Et ça, c'est génial. Et ça, c'est top. Hein, parce que la réalité, vous la connaissez, et je la connais très très bien, c'est que quand bien même j'ai accepté Jésus comme mon sauveur et mon Seigneur personnel, hein, eh bien, la réalité, c'est que je me rends compte que le péché continue à polluer ma vie. Ce péché, c'est cette force qui nous attire loin de Dieu, qui nous éloigne de Dieu. Et je me rends compte que finalement, ben, ma vie, c'est toujours un chantier spirituel. Hein. Je ne sais pas vous, mais le déjà et le pas encore. Vous savez, moi, je vois le chantier avec le maçon, etc. Et quand je pêche, alors la slide d'avant, non, oh, ben... On va le garder. Non, mais tu peux mettre. Oui. Voilà. Le truc, c'est que quand je pêche, je suis déçu, ça m'attriste. Enfin, quand on est chrétien, quand on est au Seigneur, on a envie d'être le meilleur pour lui. Je crois qu'on a tous ce réflexe-là. Et je suis tellement déçu que finalement, il me vient un réflexe naturel, c'est que je vais mettre toute mon énergie à ne plus pécher. Et je vais rentrer dans un combat, je vais commencer à combattre le péché. Je rentre dans une bagarre sans fin. Et finalement, on est concentré sur la lutte, sur le combat contre le péché. Et je peux vous dire que très souvent, en tout cas moi, je perds. ne suis pas vainqueur parce que je lutte, je combats avec mes propres forces, en fait. Et ça, c'est pas mal, je trouve. Parce que la vraie liberté ne vient pas d'un combat centré sur le péché, mais elle vient d'une vie centrée sur Dieu. Vous êtes d'accord avec ça ? La grâce, comme le dit Paul, ce n'est pas la permission de pécher, évidemment. La grâce, elle est là parce qu'elle transforme ta vie. Elle te permet de te connecter à ton Père du ciel. Une vie centrée sur Dieu. Alors, on ne va pas mettre la deuxième phrase. Je te le dis quand on la met. Merci. Voilà, la Bible dit que Dieu nous aime, et je crois que c'est le fondement, vraiment le fondement. Nous sommes nés sur cette terre parce que Dieu nous aime. Et ça, c'est important. C'est important de l'intégrer. Nous sommes créés pour être aimés, mais Dieu nous aime. Il y a beaucoup de versets, Dieu prouve son amour envers nous. Éphésiens 1, prédestiné dans son amour. Alors, problème de la prédestination, ok, mais dans son amour, c'est aussi important. C'est aussi important. C'est-à-dire que quand tu es né, eh bien, Dieu était là à ta naissance et il t'aimait déjà. Et ça, je trouve ça incroyable. Dieu prouve son amour envers nous, hein, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et si tu n'as pas connu cet amour, eh bien, ne va pas voir Yota, va voir Loïc, Mathias, Adrien, mais il n'est pas là. Et ils vont t'expliquer comment l'amour de Dieu, ils l'ont rencontré, comment l'amour de Dieu les a impactés et comment l'amour de Dieu les a transformés. Voilà, mais toute forme de péché prend racine dans nos cœurs, dans nos pensées, à cause de ce manque d'amour. Parce qu'il y a ce vide, on veut combler ce vide intérieur qui est un vide spirituel, évidemment. Hein. Et c'est-à-dire qu'en cherchant l'amour pour combler ce vide, eh bien, tu vas aller le chercher au mauvais endroit. Et finalement, tu vas te remplir de ce qu'il ne faut pas. La Samaritaine te dirait, il faut aller boire à la source d'eau vive. Parce qu'on a eu la diapo là, de la Samaritaine. Il faut aller boire à la source d'eau vive. Parce que si tu connaissais le don véritable, gratuit, que Dieu donne, eh bien, c'est toi direct qui irais demander de l'amour à Jésus pour qu'il te comble. En gros, c'est ça. Mais quand on est pris dans le piège du péché, on culpabilise, on ne veut pas recommencer parce que ce n'est pas bien. Alors, ce n'est pas bien selon ma définition du bien et du mal. Vous savez que toutes les religions nous disent ce qui est bien et ce qui est mal. Hein. Mais le vrai christianisme, la vraie foi, va bien plus loin que ça. Et là, tu peux mettre la slide. C'est que la force du vrai christianisme, c'est que l'amour de Dieu te remplit et te transforme. C'est bien plus que tu dois pas. Évidemment que notre conscience, elle est là aussi pour nous guider et qu'on va essayer d'être aller vers le bien. Mais c'est ça la force du vrai christianisme, de la foi. C'est que l'amour de Dieu te remplit et te transforme. Et là, j'ai un petit aspect pratique. C'est que quand tu es avec quelqu'un qui est tombé dans le péché, n'insiste pas sur le fait qu'il est tombé dans le péché et que ce n'est pas bien et qu'il est sale, etc. Vous savez, on remue là. Parce qu'il le sait très bien, en fait. Ou alors, s'il ne le sait pas, ça, c'est autre chose. Mais dis-lui surtout qu'il est aimé de Dieu. Répète-lui. Parle-lui de l'amour de Dieu. Parle-lui de l'amour de Dieu, comment Dieu t'a aimé. Déverse en lui tout l'amour que tu as reçu de Dieu pour qu'il soit rempli de l'amour de Dieu, parce que ça va changer. Ça va changer son orientation. Ça va le reconnecter avec Dieu. Et c'est ce que j'aime hein, dans notre Église. Ce n'est pas un reproche que je fais, hein, mais je vois toutes ces personnes qui sont remplies de l'amour de Dieu et qui le déverse autour d'elle. Et sachez que vous êtes une vraie bénédiction pour l'Église et pour les Antibois. Et c'est dans ces termes-là que c'est comme ça qu'on avancera dans nos projets. Une autre petite illustration, quand nous sommes rassasiés, si vous avez pris un bon repas, à Noël, vous avez pris, au réveillon, on a fait un super repas. Vous n'étiez pas là, dommage, tant pis pour vous. Mais on était super bien. Et quand vous avez pris un bon repas, vous êtes rassasié, vous avez mangé votre belle dinde de Noël, et puis il vous en reste encore au frigo, vous avez les placards qui sont pleins, est-ce que vous allez faire les poubelles après? Est-ce que vous allez aller manger dans les poubelles? Non, on ne fait pas ça, parce que vous êtes rassasié et parce que vous avez ce qu'il faut. On ne va pas faire les poubelles. Ceux qui font les poubelles, ce sont les gens qui ont faim et qui n'ont pas accès à la nourriture, qui n'ont pas les moyens. Mais si tu es rassasié, mais c'est complètement stupide, c'est d'une inconscience extrême. Personne n'a ce réflexe-là d'aller faire les poubelles. C'est pareil avec l'amour de Dieu. Si vous êtes rassasié, vous n'allez pas aller vous rassasier de choses. Il y en a des choses, je ne vais pas faire la liste, vous le savez mieux que moi. Ah, mais il est là, Adrien, je ne t'avais pas vu. Si vous êtes rassasié, vous pouvez aller le voir à la fin du culte. Si tu es rassasié de Dieu, de l'amour de Dieu, mais tu vas plus faire les poubelles, tu vas plus aller sur des sites, etc. Tu n'as plus envie de faire des bêtises, etc. Parce que le Seigneur, il te comble. Alors, comment l'amour de Dieu nous transforme et comment se libérer de ce péché? Ce chapitre 6, il est centré là-dessus. Verset 11, « Considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Verset 13, « Au contraire, offrez-vous à Dieu comme des êtres revenus de la mort à la vie et mettez-vous tout entier à son service. Le péché, verset 14, n'exercera plus son pouvoir sur vous puisque vous êtes sous la grâce. » Verset 19, « Mettez-vous tout entier comme esclave au service de Dieu. » Amen. C'est un bon petit résumé. Paul ne dit pas « Alors, analysez-vous, faites une introspection de vous-même, regardez en vous, fixez-vous sur vos faiblesses, combattez le péché, mettez votre énergie. » Non. Il dit, considérez-vous vivant pour Dieu. Offrez-vous à lui. Orientez vos membres vers la justice de Dieu, votre corps. La libération ne commence pas par la lutte, elle commence par une relation avec Dieu. C'est-à-dire qu'à la croix, il y a un échange. Sa vie, on l'a chanté, hein, nous échangeons notre péché contre sa justice, hein, sa vie contre la mienne. Ma vie ne m'appartient plus, et ça aussi, il faut le dire, quand on accepte Jésus-Christ de venir dans notre vie, on est content parce qu'il pardonne notre péché, mais en retour, notre vie ne nous appartient plus, elle lui appartient. Mon corps n'existe plus que pour le servir. Et lui, il nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété, à notre relation avec lui. Il a pourvu à tout, pour notre salut éternel, mais aussi pour notre vie quotidienne. Chaque jour, quand le péché arrive, le Seigneur a prévu. Il y a Francis Mouhot. On a fait connaissance avec lui il y a peut-être un an et demi maintenant. Il a dit, Dieu ne veut pas réparer nos défauts. Il veut nous remplacer. Il met le fruit de l'Esprit en nous. C'est le Saint-Esprit qui nous dirige. Moi, il m'a fallu du temps, hein, pour capter ça, mais Voilà, Dieu n'est pas venu corriger nos actions. Ce n'est pas ça. Il est venu nous donner un cœur nouveau. C'est complètement différent. Un cœur nouveau. Vous voyez l'échange ? La marche chrétienne, c'est un peu comme si tu, roulais en voiture. Tu roules, puis tout d'un coup, tu crèves. T'as un pneu crevé. Aïe, tu tombes dans le péché. Qu'est-ce que tu fais ? Tu descends de la voiture, tu constates que la roue est crevée, t'as failli te mettre en l'air à cause de ce péché. Tu regardes la roue, puis qu'est-ce que tu fais ? Tu essayes de prendre de la colle et du scotch et de réparer la roue ? Non. On ne fait pas ça. Ou tu pries pour que la roue se répare et qu'elle se regonfle toute seule. Non. Tu changes la roue. Tu prends une roue neuve et tu fais l'échange. Et il y a un échange. Vous comprenez ? La nouvelle roue, elle est connectée à la voiture de notre vie, quoi. Et c'est pareil avec le Seigneur. Quand nous tombons, il faut changer notre attitude de cœur pour nous reconnecter à Dieu. Nous devons nous reconnecter à Dieu parce qu'à la croix, Jésus a tout prévu pour nous. Il a fait l'échange et il a pourvu à tout. C'est ça la grâce de Dieu. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Fais l'échange. Qu'est-ce qu'il a dit, le fils prodigue, quand il n'en pouvait plus ? J'ai repris le verset. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir. C'est le hamster là dans le cerveau, pour ceux qui étaient au 31. Il se mit à réfléchir et il se dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, cette nourriture du ciel. Et moi, je meurs de faim. » Qu'est-ce qu'il dit ? Je vais arrêter de manger des caroubes. Il dit, je vais arrêter de faire les poubelles. Il dit, je vais arrêter de garder les cochons. Qu'est-ce qu'il dit ? Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je vais retourner vers mon père. Donc son réflexe, c'est de se reconnecter à son père. Mais j'insiste parce que ce n'est pas naturel. Quand on pêche, ce n'est pas naturel. On a la culpabilité, etc. C'est pas naturel. Hein. Ils ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge, nous dit Romains 25. Ils m'ont abandonné, Jérémie 2,13. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Waouh! Ça veut dire que quand je pêche, on a un ennemi qui fait tout pour qu'on parte à la dérive, vraiment, pour qu'on s'éloigne de Dieu. C'est notre fonctionnement naturel. Je ne peux pas me sauver tout seul, j'insiste. Seul Jésus peut le faire, d'où la nécessité de se reconnecter. Et vous allez me dire, ouais, ok, Eric, mais jusqu'à la prochaine chute, hein, comment on évite le piège du péché ? Alors, j'ai une petite illustration pratique ce matin. Ça va nous changer un petit peu. Il me faut un volontaire. C'est vrai ? Voilà, ceux qui n'oublient pas le fond. Allez-y. Prenez vos balles de ping-pong. Ce matin, vous allez voir si vous avez du talent. Donc, on va prendre ces balles de ping-pong et puis tu vas me rendre le pot après, dès que tu as fini. Alors, il n'y a peut-être pas assez de balles pour tout le monde. On verra. Et vous vous rappelez de la définition du péché? Ce qu'on dit régulièrement, le péché, manquer la cible. Et la cible, c'est quoi? La cible, c'est la perfection de Jésus. C'est...
Et il en reste?
La cible, c'est la perfection de Jésus. On va dire que c'est ça, la cible. OK ?
Je vais la poser là.
Et ce que je vous propose, c'est que ben, vous allez lancer votre balle et vous allez essayer d'atteindre la perfection de Jésus. Allez, allez-y. On y va. Oh là là. Il y en a qui ne dépassent pas le rang de devant. Hein. Voilà, voilà, voilà. Alors, c'est bon, c'est bon. Donc, je vois que vous êtes tous de grands pêcheurs. Mais qu'est-ce que vous êtes pêcheurs ? C'est pas possible. Hein. Pourtant, vous avez mis de la volonté. Hein. Vous voyez qu'avec votre volonté, on n'y arrive pas. Hein. Alors, moi, je vais vous demander à... Je vais demander à Marcel, parce qu'elle a, elle a une balle, mais elle n'a pas mis... Elle n'a pas essayé. Essaye de mettre la balle dans le seau.
T'as vu t'aider ? Ça va aller ? Je te fais un croche-patte ?
Non, alors. Ça serait bien.
Parce qu'il y a des embûches sur le chemin pour être à la perfection. Regardez. Tu peux mettre le truc, la phrase suivante. La conclusion, c'est quoi? C'est que si tu es proche de Dieu, si tu te rapproches de Dieu, de Jésus, si tu passes du temps avec lui, ton cœur va changer. Et tu vas ressembler de plus en plus à Jésus. Et finalement, parce que tu es proche de lui, eh bien, tu vas moins manquer la cible. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Tu ne peux pas faire l'économie de passer du temps avec Dieu. Si tu veux que ta vie change, si tu veux être libéré du péché, passe du temps avec Dieu. Si tu veux une vie victorieuse sur le péché, passe du temps avec ton Seigneur. On a une parole, on prie. Et parce que si tu ne le fais pas, ben tu vas t'éloigner. La dérive. Tu vas t'éloigner un petit peu. Et chaque jour, un petit peu plus, et un peu plus, un peu plus. Puis un jour, tu vas dire, poum, je suis tombé. Et oui, tu étais trop loin, comme ceux du fond. Voilà, donc c'est la conclusion de ce message, hein, c'est reconnecte-toi. C'est très simple, c'est très basique, mais c'est fondamental. Approche-toi de Dieu, prends du temps pour le connaître, parce que c'est ce qui te libérera. Tu as deux maîtres possibles. Hein. Le péché, qui mène tout droit à la mort, ça c'est les versets 16, 21 et 23, ou alors l'obéissance à Dieu qui conduit à la justice et à la vie, versets 16 et 18. La liberté, ce n'est pas d'être autonome, c'est une nouvelle appartenance à un nouveau maître. C'est ça la vraie liberté. La foi n'est pas une autre manière de croire que les autres religions. La foi nous fait rentrer dans une nouvelle identité de vie. Être chrétien, c'est se nourrir du Seigneur, c'est se nourrir de sa parole, de ce qu'il nous dit, pour vivre comme lui, comme Jésus a vécu.